Bonjour à vous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Up to Eleven, podcast musical. Avec moi, Gandalf81, vous allez découvrir un artiste. Avec cet artiste, vous allez le découvrir par le biais d'un seul album. De cet album, nous allons en extraire trois morceaux. Et puis pour finir, pour assaisonner le tout, nous allons rajouter un petit morceau qui peut être un live, un morceau de notre album, etc. Pour l'instant, je n'ai pas forcément d'idée arrêtée sur ça, mais voilà, ce sera selon le moment. Donc, plutôt que vous parler directement de l'artiste que nous allons découvrir, je vais directement l'introduire par l'une de ses chansons. On se retrouve tout de suite après. Nous venons d'écouter Dreamer, Round 3, Part 1, sur l'OST de Street of Rage 2. Alors, qui a composé l'OST de Street of Rage 2? Eh bien, c'est tout simplement Koshiro Yuzo, qui est... bon, peut-être que certains le connaissent déjà, c'est un compositeur et musicien japonais, donc qui s'est énormément consacré à la musique de jeux vidéo pour l'instant. Alors, il est né le 12 décembre 1967, donc il a eu, il a 50 ans pour l'instant, et il est né à Hino, je crois, oui, c'est ça, qui est à peu près, on pourrait dire, c'est dans la banlieue de Tokyo, à peu près, hein, voilà. Il est reconnu pour un style assez éclectique, mais il est quand même assez reconnu pour tout ce qui est musique, comme vous l'aurez pu l'entendre là. Tout ce qui est son un peu très électro, donc breakbeat, électro, hardcore, house, jungle, techno, trance. Il y a fait aussi de l'expérimental, du symphonique, du hip-hop, du jazz et du synth-rock, entre autres. Hein. Parce que vous verrez que sa production est assez diversifiée et assez large. Donc dans sa tendre enfance, on va dire, il a eu l'occasion de prendre des cours de piano et de musique, peut-être aussi en général. Je pense par un compositeur, je pense que certains connaîtront beaucoup. Je pense qu'un jour, j'essaierai d'y consacrer un épisode aussi, c'est Joe Hisaishi. Donc, Joe Hisaishi même, devrais-je dire plutôt. Il a fait énormément de musique pour Ghibli, par exemple. Et il a fait aussi du musique pour d'autres films, etc. Un petit peu pour de la série télé aussi. Et il a fait, par exemple, quand ils avaient fait la ressortie de comment ça s'appelle, le mécano de la générale de Buster Keaton, c'est lui qui avait recréé des musiques pour l'occasion, pour la sortie de ce film muet, hein, faut pas l'oublier. Et donc en fait, Bon, pour revenir à Koshiro Yuzo, en fait, pendant sa jeunesse, en fait, il a été un petit peu bercé par la musique de jeux vidéo. Il faut dire qu'à l'époque où celui-ci devait être jeune, ça a dû être un peu le gros boom du jeu d'arcade au Japon, ça, Space Invader, etc. Bon, Space Invader n'est pas reconnu pour sa musique, mais vous verrez que les jeux qu'il a appréciés, lui, le sont particulièrement. Donc, il y a The Tower of Draga, Space Area et Gradius, qu'il a apprécié comme jeu vidéo, je pense aussi comme bandson, parce que Gradius, je me rappelle que la bandson était vraiment chouette aussi. Donc en fait, il a commencé sa carrière en 1986, il a commencé à travailler pour Nihon Falcom, et Nihon Falcom, en fait, c'est les créateurs et éditeurs, etc., de tout ce qui est série Dragon Slayer, et de Is, surtout, donc le Is, le 4, c'est... Non, pas le 4, le 7 ou le 8, je ne sais plus, je crois que c'est le 8, qui est sorti récemment, il sera bientôt disponible sur Nintendo Switch, et il est déjà disponible sur PS Vita, et PS4, et PC aussi, je crois, si ma mémoire est bonne, et c'était sorti 2017. Et en fait, il a commencé à travailler, alors je sais pas s'il en avait un quand il était jeune, mais il a commencé à travailler sur ce qu'on appelle un PC NEC, donc c'est le NEC PC, c'est le 88 en fait, c'est un son très, très typé, et j'y reviendrai un petit peu plus tard dans cette émission. Et en fait, juste après ça, fin des années 90, il a commencé à travailler en freelance. Donc il a fait, par exemple, vous venez de l'entendre, il a fait les OST pour Sega de la série Street of Rage. Il allait jusqu'au 3, si ma mémoire est bonne. Il a fait aussi une partie de la série Shinobi ou de Actraiser. Et après, donc, vous verrez qu'il a continué à... Il continue jusqu'à aujourd'hui encore à faire de la musique de jeux vidéo. Et je vais vous citer quelques-unes de ses créations un petit peu plus récentes pour ceux qui connaissent. Ouais, voilà, donc par exemple en 1990 il a fait Actraiser, pour ceux qui connaissent, donc la BO de Street of Rage 2 ou Barknuckle 2 au Japon, elle a été faite en 1992 et c'est lui seul qui a fait toute la musique là-dessus. Voilà, parce que vous verrez que des fois ils étaient plusieurs. Par exemple, Street Fighter 2, il y avait plusieurs compositeurs là-dessus. Mais on peut voir qu'il a fait, voilà, par exemple, il a fait des compositions aussi pour Shenmue 1 et 2. Pas tout seul, mais voilà, il a travaillé là-dessus. Et pour des musiques plus récentes, peut-être que certains connaîtront, dont c'est la série Etrian Odyssey, qui est une série de Dungeon Crawler. Donc c'est un type de jeu où en fait on parcourt des donjons, mais de façon case par case. Et généralement, on n'a pas la carte, voilà. Donc, en fait, faut pouvoir se retrouver tout le temps là-dedans, etc. C'est des styles de jeu assez hardcore, hein, un petit peu compliqués. S'il y en a qui veulent peut-être un parallèle pour retrouver quel type de jeu ça peut être, il y a Wizardry, qui est l'un des premiers dungeon crawlers, si ma mémoire est bonne. Et plus récemment, il y a la série, c'est Legend of Grimrock, qui a repris, ce type de gameplay. Et après, et voilà, donc c'est vraiment sa série la plus récente et la plus connue, hein, mon homme l'a vie. Et après, voilà, il a fait quelques piges aussi, par exemple, dans les derniers Super Smash Bros, à partir du Brawl et sur le 3DS, je crois aussi. Oui, il a fait aussi, sur 3DS et Wii U, il a fait quelques compositions et arrangements. Et après, on a pu le retrouver sur certaines... Kid Icarus Uprising sur 3DS, qui est vraiment un excellent jeu, et surtout la musique est vraiment... super bien, parce qu'on avait cherché pas mal de compositeurs là-dessus, et franchement, rien que ça mérite d'être écouté. Et pour l'année 2018, par exemple, eh bien, il a travaillé sur le regretté et pas terrible remake de Secret of Mana, donc Seiken Densetsu 2, et il travaillera aussi sur Monster Boy and the Crushed Kingdom, qui est développé, si ma mémoire est bonne, par les personnes qui ont fait Flying Hamster. D'ailleurs, c'est de être à Flying Hamster 2, mais avant de changer de nom et d'être rebadgé. Et il travaillera bien évidemment sur Etrian Odyssey X, qui doit sortir cette année pour l'instant. Voilà, pas de date précise, et je crois que c'est sur 3DS. Par exemple, sur Monster Boy and Crushed Kingdom, il va travailler avec Yamane Michiru, qui a fait des musiques sur Castlevania Symphony of the Night. Voilà. Sur Castlevania normal, je crois plutôt même. Je crois que c'est elle qui a fait le thème de Vampire Slayer. Donc voilà, donc c'était déjà à peu près tout pour ce que je pouvais dire sur Koshiro Yuzo. Bon, vous verrez que c'est une personne assez connue, tout de même. Et par rapport au jeu, donc en fait, le jeu c'est donc Street of Rage 2 ou Bareknuckle 2 au Japon. Bareknuckle c'est le point américain, hein, ce qui permet de faire un peu la castagne quoi. Donc c'est un beat'em all tout à fait basique comme on en avait à l'époque, hein, comme il pouvait l'être Last Fight par exemple. Oui, c'est ça, Last Fight, c'est le jeu de chez Capcom si je ne me trompe pas. Oui, je fais des recherches en direct, hein, pour vous dire que j'ai pas préparé tout mon speech, hein. Donc oui, voilà, c'était ces jeux qu'on pouvait jouer à deux, on se bagarrait contre des punks à chien. Pourquoi, je ne sais pas, mais faut le savoir. Et donc ce jeu était, lui, par contre, était sorti, donc voilà, c'était édité par Sega, donc il était sorti à l'époque sur, non, c'est Final Fight, voilà, je confonds. Last Fight, c'est le jeu de, c'est le jeu de Last Man, voilà. En fait, c'était, l'époque, c'était un genre qui avait quand même un peu le vent en poux, hein. Il est sorti donc sur Mega Drive. Et je vais pour vous revenir sur le chipset de la Mega Drive parce qu'on est des fous ici, on est des dingues. En fait, donc le chipset sonore de la Mega Drive c'est un Yamaha, un IM2612. Et en fait, sa particularité par rapport à celui de la Super Nintendo, en fait, comme la Super Nintendo est sortie un peu après, elle avait quelques lacunes au niveau du, je crois que c'était au niveau par contre, elle, du processeur. Et la carte graphique qui était un petit peu moins bien que la Mega Drive, parce qu'en fait au tout début de la conception, la Super Nintendo voulait être rétro compatible avec la Nintendo, en fait la NES quoi, la Famicom de base. Sauf que la console a pris 1 ou 2 ans de retard, et en fait chez Nintendo, la direction à un moment a dit allez les enfants, on se bouge un peu le train. Et en fait, ces décisions d'architecture ont été entérinées par défaut. Donc la Mega Drive avait des avantages et des inconvénients. Par contre, elle avait, voilà, du coup, un certain désavantage, c'était au niveau du chipset sonore. Voilà, la puce qui s'occupait du son. Là où la Super Nintendo avait un vrai sampler, en fait. Un vrai chipset qui était dédié à recomposer, comme sur les ordinateurs Amiga, tout ça, un petit peu plus tard, etc. Un peu plus tard, un petit peu à la même époque. C'était vraiment un chipset qui pouvait faire du sample, quoi. Donc réutiliser des musiques préenregistrées, très très grossièrement pour dire comme ça. Et donc on avait une qualité sonore bien meilleure. C'est pour ça que quand on compare la Mega Drive à la Super Nintendo, c'est peut-être aussi pour ça que les RPG ont mieux marché sur Super Nintendo, parce que la musique avait vraiment pour avoir une ampleur symphonique, la musique était beaucoup plus le chipset était beaucoup plus intéressant sur Super Nintendo. Mais malgré ça, voilà, donc c'était un chipset un peu à l'ancienne, le chipset de la Mega Drive. C'est le même système, c'était à peu près le même chip que sur la Master System, hein, plus évolué. Donc voilà, en fait, il pouvait occuper 6 voix FM, ce qu'on appelle, donc 6 voix, et il pouvait faire 5 voix FM ou une voix PCM. Donc une voix PCM, en fait, recomposition de musique pas samplé, mais c'était instrument digitalisé, etc. Ça fait quasiment un peu du slam. Je pense que ça peut être plein des samplers, mais en fait, comme ici il n'y avait qu'une voix, c'était un peu gênant. Donc il était souvent utilisé pour les beats, etc. quoi. Et en fait, ouais, voilà, finalement, après, voilà, c'est deux orientations différentes par rapport au chipset de la Super Nintendo et de la Mega Drive. Je pense qu'encore la PC Engine, je crois qu'elle utilisait encore un truc un peu à l'ancienne aussi, je crois qu'elle a utilisé une technologie assez proche de la Mega Drive, je crois, dans l'époque de la sortie. Mais en fait, voilà, on a quand même deux sonorités différentes, et vous voyez que, de ce que je vous ai fait écouter pour l'instant, vous voyez qu'on pouvait faire sortir un très très bon son à la avec une Mega Drive. Il y a pas mal, il y a Thunder Force, etc., qui avait des bons chipsets, et Actraiser aussi avait une très belle OST. Après, je ne sais pas forcément quoi rajouter là-dessus. Voilà, je vous ai présenté l'artiste, je vous ai présenté le jeu. Hein, je vous laisse plutôt vous pencher sur le jeu, c'est plus pour te faire découvrir l'artiste que je suis ici. Et je pense qu'on va passer au morceau suivant, tout simplement. En revenant de ce morceau-là, je vous expliquerai pourquoi ce choix. Nous venons d'écouter Spin on the Bridge, Round 2, Part 1. À l'époque, les stages dans les beats et molles, ils étaient découpés à peu près. C'était un bon beats et molles et Street of Rage 2 en est un bon. Donc pour en revenir peut-être plus rapidement sur la musique, vous rendrez compte qu'on est sur quelque chose de très électro, pas forcément techno, mais un peu quand même, voilà. Un peu dans ces eaux-là, j'ai un peu du mal à dégrossir le genre, peut-être que quelqu'un, en écoutant, aura plus de clairvoyance que moi, mais voilà, on est sur une musique très typée quand même. À l'époque, il y avait cette rivalité, donc avec la Super Nintendo, et la Super Nintendo était la première console vraiment grand public, hein, une console qui... Voilà, majeur, avec comme ils disent sur Emo 5, elle intègre un processeur sonore Sony qui génère donc 8 voix en stéréo, et en fait la console a un circuit spécialisé pour la restitution de samples, dont les samples c'est tout ce qu'on avait, un peu son, bon les MIDI c'est un peu fourre-tout comme mot, mais c'est un peu ça quoi, donc c'était un sample en fait, c'est un bout de riff de guitare, je sais pas, une note joue à la guitare, une autre joue à la batterie, etc. Et en fait, à l'époque aussi, sur tout ce qui était Amiga, Atari, les gens se refilaient les samples de bonne qualité, tout ça, etc. Hauteur de son, etc. La tonalité qu'on voulait. Et en fait, tout ça, c'était pour avoir des morceaux de meilleure qualité. Donc en fait, c'est pour ça qu'on écoute, ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on écoute les RPG sur Super Nintendo, ils ont plus de gueule que sur Mega Drive. Parce que le son est quand même avec le sample, on peut restituer des instruments qui sont existants, donc on peut avoir une palette d'émotions un petit peu plus grande qu'avec que des sons électroniques, comme on a majoritairement sur Mega Drive, qui ne permet malheureusement que l'utilisation de sons générés électroniquement. Mais vous voyez qu'on peut arriver quand même avec des sons générés de façon électronique, pas de son numérisé, quoi. On peut faire des musiques de très bonne qualité, quoi. Et à l'époque, voilà, donc il y avait c'était devenu le point de passage. À l'époque, les samples c'était la révolution, quoi. Donc on pouvait passer sur une musique complètement autre. C'est pour ça qu'aussi à l'époque les mecs se sont lâchés, quoi. Quand vous écoutez Final Fantasy VI, la BO est tue, parce que les mecs à l'époque ils sont lâchés, qu'ils en pouvaient plus, quoi. Les mecs, ils ont fait des samples, ils ont fait des opéras et tout dedans. C'est assez extraordinaire. Et au fur et à mesure, le son généré électroniquement est tombé en désuétude parce qu'il permettait moins de possibilités, etc. Mais finalement, on est revenu, après, on est repassé à des instruments plus normaux parce qu'on a pu commencer à enregistrer des vrais morceaux en entier cette fois, hein, pas que des samples. Et du coup, on est revenu à une sorte de mix où maintenant on peut écouter de la chiptune. Donc la chiptune, c'est la musique vraiment créée électroniquement. Donc il y en a certains qui utilisent même des fois des Game Boy, etc. pour recréer ce son très spécifique, très marqué. Il y en a qui utilisent encore des Atari et surtout des Amiga pour recréer du son samplé. Donc vraiment, des petits trucs qui sont remis bout à bout, là. Maintenant on a toujours de la musique avec des samples. Les derniers morceaux, pas de rap, mais un peu d'électro R&B, tout ça, etc. Je voyais peut-être un peu le genre. Il y a du sample, mais après, maintenant, c'est des samples qui sont quand même assez conséquents. Donc, c'est des loops, quoi, c'est des boucles. Et c'est des samples qui sont de meilleure qualité. C'est ce qu'on a avec les DJ, vous savez, les trucs où ils appuient, là, pour lancer des samples, etc. Puis sur un registre même, etc. Maintenant, c'est plus la même qualité de sample qu'on avait à une époque sur un Amiga, quoi. Ou sur une Super Nintendo, par exemple. Par contre, on a perdu un petit peu de son typé, quoi. C'était du son qui était un peu plus renfermé, qui était, je sais pas, un peu plus criard, je ne sais pas, il y avait quelque chose. Mais en tout cas, voilà, par rapport à Street of Rage 2, pardon, je bafouille. Moi, c'est une musique que j'ai découvert. Alors moi, j'ai pas trop pu faire Super Nintendo Mega Drive, j'étais encore un petit peu jeune à l'époque. Moi, j'étais plus époque Nintendo 64, alors, vraiment, j'ai des souvenirs, voilà. Parce que moi, j'ai fait du coup la Nintendo et je suis passé directement à la 64, à l'époque. Et il y a vraiment ce petit côté vraiment, alors ça, à la fois on est sur du vraiment de la musique de jeux vidéo, parce qu'à l'époque c'était ce genre de chip était utilisé majoritairement pour du jeu ou des choses comme ça, hein. On s'amusait pas je pense que on s'amusait pas à porter de la musique sur micro, parce qu'à l'époque ce genre de chip aussi comme ceux de la Mega Drive était utilisé sur les micro-ordinateurs, etc. Donc on s'amusait pas à porter de la musique grande école. Hein. Il y a eu des tentatives. J'en rappellerai qu'il y a eu un jeu sur Renault, Marche à l'ombre, hein, que j'ai pu écouter récemment dans un Démon du Midi. D'ailleurs, si vous voulez vous pencher sur la musique du jeu vidéo, allez écouter le podcast Les Démons du Midi. Vous apprendrez peut-être probablement beaucoup plus de choses que moi. Mais ouais, il y a eu énormément de tentatives parce que c'était beaucoup d'efforts pour pas grand-chose finalement. Alors qu'on pouvait mettre un CD dans une platine et l'histoire était réglée. Donc en fait, on en est revenu à que sur ces ordinateurs, il y avait vraiment que la musique de jeux vidéo quoi dessus, grosso modo quoi. Donc on a perdu un peu de cette et c'est vraiment voilà la musique. Du coup, c'est ça que je voulais dire plus haut. Je me perds moi-même dans mes idées. C'était qu'en fait la musique de Street of Rage 2 fait du coup jeu vidéo, parce que à l'époque c'était très très majoritairement utilisé pour ça, ce type de chip. Mais à la fois on a une musique qui est beaucoup plus élaborée. Donc là je vous ai mis quand même les musiques un peu plus longues de l'album, enfin de l'album de l'OST, parce qu'il y a eu des musiques un petit peu plus courtes, forcément pour l'effet de loop. Hein. C'est généralement on faisait des musiques de 1 minute 30, grosso modo, et qui étaient faites pour looper. Donc c'était en continu. Un peu comme la musique que vous pouvez avoir aujourd'hui dans la plupart des jeux, c'est comme ça, dans un Civilization ou ça ou pas, etc. Imaginez quelque chose une musique un peu voilà, et puis qui boucle, parce que là vous comprenez bien qu'une partie de Civilization c'est long, et donc il faut que la musique elle puisse se reproduire, etc. tout le long de la partie. Je pense que c'est une belle imagerie. Alors vous voyez quand même qu'avec quelque chose qui est quand même assez rudimentaire, hein, en termes de son quand même à l'époque. Bon, on n'est pas au début des périodes de l'arcade quand même, parce que là où le son était vraiment plus que rudimentaire, qu'on arrive à faire des très belles musiques. Et en fait c'est une musique que j'ai redécouvert avec un copain de licence, ça a été en 2010-2011, c'est même vraiment en 2010 alors, on va dire, et que j'avais un peu oublié malgré moi. Et j'y suis revenu parce que, moi j'ai toujours aimé tout ce qui était jeux de combat, etc., et beat 'em all, par extension, et ça m'a toujours plu, et on s'est remis à écouter ça, parce qu'il me disait, écoute, ça c'est des musiques, ça, le mec il va en boîte de nuit là-bas, à Tokyo, et le mec il fait DJ, il met cette musique, quoi, et moi je trouvais ça fou. Je me disais, mais c'est pas possible, quoi, c'est pas possible. Je me disais, mais comment c'est possible? Et à force de réécouter, j'ai compris pourquoi, parce que c'est une musique quand même qui est hyper élaborée. Quand on se dit que c'est pour un jeu de, c'est pour que pour de la bagarre, c'est quand même un peu abusé. Bon, c'est quand même très typé jeu vidéo, mais quand même, je trouve que ça arrive à sortir au-delà, quoi. Et c'est ça que je voulais vous présenter aujourd'hui, voilà. Des fois, il faut un peu être surpris, un peu être surpris par tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, tout simplement. C'est un peu bête comme chou, comme façon de faire, mais voilà. C'est pourquoi j'ai choisi cet album, parce que ça... Vous verrez, il y a une autre raison, après, je l'expliquerai dans la prochaine coupure. Mais, je sais pas, c'est... pour moi, c'est vraiment... Il y a quelque chose dans cette musique. Voilà, il y a quelque chose d'assez précurseur. Donc c'est pour ça que je voulais vous le faire écouter aujourd'hui. Donc, écoutez, plutôt que palabrer encore pendant 5 minutes pour ne rien raconter, je vais vous laisser avec le prochain morceau. Et on se retrouvera pour le morceau en plus et la coupure. Je vous dis à tout de suite. We'll be right back. Nous venons d'écouter Go Street sur donc la BO de Street of Rage jeu et c'est Round 1 Part 1. Donc c'est la première musique du tout premier niveau. Je vous laisse réfléchir, je vous laisse être assez imaginatif hein, ou savourer cette musique moi que j'apprécie beaucoup, cette basse, ce beat, ce pied très fort, c'est un vrai petit bijou. Ça m'avait fait forte impression quand j'avais joué à Street of Rage 2 à l'époque. Hein. Bon, franchement, ça m'avait marqué. Voilà. C'est tout ce que j'avais ajouté sur Street of Rage 2. Et pour le morceau en plus, nous allons nous quitter là-dessus. Hein. Donc c'était Up to 11, donc l'épisode 2. C'est toujours pour l'instant avec Gandalf 81. On se retrouvera donc bientôt pour un autre épisode. Et pour ce morceau en plus, j'ai choisi tout simplement No Life, No Thema. Donc la musique de No Life, qui a été composée par Koshiro Yuzo. Alors il y a deux versions de cette musique. La version 2 est censée être plus proche de ce qu'il souhaitait faire au début, ce qu'il souhaitait faire à l'époque. Voilà, monsieur Koshiro. Mais moi j'ai toujours une petite affinité pour le premier morceau. Parce qu'il est, on sent qu'à l'époque il avait programmé ça avec des samples de PC 88. Donc c'est le truc que je vous avais parlé au début, c'est ces ordinateurs NEC de début d'année, vraiment début des années 80, et qui eux avaient un chipset, voilà, vraiment un chipset musique électro comme là avait la Mega Drive pour Street of Rage 2. Alors c'est pas forcément c'est raccord au niveau de la tonalité, mais au niveau de l'impression que la version 2, la version remixée du No Life No Thema est quand même plus électro, c'est plus il y a plus de pieds, il y a plus de beats, voilà, donc c'est quand même plus proche, mais moi je préfère la première version, donc on va se quitter là-dessus, et je vous dis à bientôt pour Up to 11.
We'll be right back.